Mathias Wirtz.
Les autorités russes ont levé cet après-midi l'alerte au tsunami dans la péninsule du Kamtchatka. Un puissant séisme de magnitude 8,8 s'était déclenché cette nuit au large de l'extrême-orient russe. Bilan des bâtiments submergés dans le nord des îles Kouriles et quelques blessés dans ces régions reculées. Ce séisme a provoqué des tsunamis en Russie et au Japon et il a déclenché des alertes dans presque tous les pays riverains du Pacifique. Mais comme en Russie, les autorités du Japon et de Hawaï ont rétrogradé ces alertes à des appels à la vigilance. L'ONU exhorte le Cambodge et la Thaïlande à respecter leur accord de cessez-le-feu. Depuis ce matin, les deux pays s'accusent mutuellement de rompre ce cessez-le-feu. Bangkok et Phnom Penh s'étaient convenus d'une trêve. Elle devait débuter dans la nuit de lundi à hier, après 5 journées d'échanges de tirs sur leurs frontières communes. Les rancœurs tenaces entre la Thaïlande et le Cambodge sont liées à un différend territorial hérité de l'époque de l'Indochine française. Un pipeline d'eau dessalée pour desservir le sud de la bande de Gaza. C'est le projet des Émirats arabes. La construction depuis l'Égypte doit débuter ces jours avec l'accord d'Israël. Des équipes techniques sont déjà sur place pour transférer du matériel. Le pipeline fera près de 7 km de long. Son objectif, répondre à la crise de l'eau touchant ce territoire palestinien assiégé. 22 personnes tuées en Angola, c'est le bilan depuis lundi des violentes manifestations de protestation contre la hausse des prix des carburants dans ce pays sud-africain. Elles s'accompagnent de nombreux pillages de magasins d'alimentation. Le gouvernement avait décidé début juillet d'augmenter ses prix, jusqu'alors fortement subventionnés. On pourrait peut-être parler d'un Ritalin Graben. La prescription de médicaments contre les troubles de l'attention varie fortement d'un canton à l'autre. Des écarts particulièrement marqués chez les adultes. Balville, par exemple, prescrit 9,1 doses quotidiennes pour 1000 personnes, un chiffre presque 7 fois supérieur à celui enregistré au Tessin. La Ritaline et les médicaments apparentés sont davantage prescrits dans les zones urbaines que dans les régions rurales, selon l'Observatoire Suisse de la Santé. Plusieurs experts expliquent ces écarts, notamment par une plus grande tolérance dans le sud du pays envers les comportements typiques du TDAH. Une habitante d'Échallens dans le canton de Vaud, victime ce matin d'un homejacking. Un homme se faisant passer pour un ouvrier se trouvait sur son palier. Il a profité du moment où elle sortait de la porte pour la repousser à l'intérieur et entrer avec elle. Le malfrat a fouillé l'appartement en la menaçant avec un couteau. Il a ensuite pris la fuite avec des bijoux. Malgré le dispositif mis en place, la police n'a toujours pas retrouvé cet homme. Et ce beau geste de la part du FC Sion, le club de foot valaisan annonce que la tribune D du stade de Tourbillon portera symboliquement le nom de tribune Blatten durant toute la saison. Les recettes générées seront reversées au village presque entièrement détruit par un éboulement en mai dernier. Météo, temps généralement sec ce soir, mais le ciel se partage entre nuages et éclaircies, tout au plus une petite averse isolée, ciel en revanche plus dégagé en Valais. Demain, plutôt ensoleillé, malgré quelques passages nuageux plus nombreux le long du Jura et des Préalpes. En plaine, minimum 13, maximum 25 degrés, et pour vendredi, ce sera un 1er août en dégradé, assez ensoleillé en plaine, plus nuageux en montagne avec quelques averses probables.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Depuis plus de 30 ans, le pianiste Brad Meldo tisse de fascinantes histoires musicales où se croisent Bill Evans, Fauré, Bach ou les Beatles. Entouré de Félix Moser-Holm à la contrebasse et Jorge Rossi à la batterie, il sera en concert ce vendredi 1er août au Festival de Verbier, un concert que je me réjouis de partager avec vous dès 19h30 dans l'été des festivals sur RTS Espace 2 et RTS Play.
L'oreille d'abord, Catherine Buzer.
Et Thierry Châtel à la régie, bonjour, bienvenue. Il y a quelques jours, je vous ai fait écouter la célèbre Chaconne de Jean-Sébastien Bach dans une transcription pour piano signée Ferruccio Busoni. Cette œuvre sublime m'a soufflé l'idée d'un thème que j'ai eu envie d'explorer avec vous aujourd'hui, le thème de la transcription. La transcription, c'est une pratique courante dans l'histoire de la musique. Elle consiste à arranger ou adapter une œuvre musicale pour une formation différente de celle pour laquelle elle a été écrite à l'origine. C'est une manière de donner une autre couleur ou un autre vêtement à une partition en l'habillant différemment. On lui donne ainsi en quelque sorte une nouvelle vie. Le thème de la transcription soulève d'innombrables questions. Pourquoi est-ce qu'on transcrit une œuvre? Est-ce qu'il y a différentes manières de transcrire une partition? Quelle est l'origine de cette pratique? Et surtout, y a-t-il des compositeurs qui se sont illustrés dans l'art de la transcription? Autant de questions qui seront soulevées tout au long de cette oreille d'abord, le tout agrémenté bien sûr de quelques-unes des plus belles transcriptions du répertoire. C'est le compositeur et pianiste Giovanni Sgambati qui va donner le ton avec sa merveilleuse transcription pour piano de la Mélodie d'Orphée, tirée de l'opéra Orphée et Eurydice de Christoph Willibald Gluck.
Thank you.
La mélodie d'Orphée de Christoph Willibald Gluck, ici arrangée pour piano par Giovanni Sgambati. Earl Wilde en était l'interprète. La transcription, c'est une technique connue et utilisée depuis la nuit des temps. Les motivations qui incitent les compositeurs à transcrire une œuvre sont multiples. La plus évidente est le désir d'un musicien de jouer une partition qui n'a pas nécessairement été écrite pour son instrument, d'où la nécessité de l'adapter aux possibilités techniques de l'instrument ou des instruments choisis. Dans le cas de cette mélodie d'Orphée, elle est tellement belle que les pianistes avaient très envie de se l'approprier. La technique de la transcription telle qu'on la connaît est relativement récente. En effet, jusqu'au XVIIe siècle, les compositeurs n'avaient pas le réflexe de prescrire un effectif musical précis et laisser aux musiciens la liberté d'interpréter leurs œuvres en fonction des instruments et des chanteurs à disposition. Les partitions étaient ensuite adaptées selon les effectifs disponibles. Au Moyen-Âge et à la Renaissance, une partition pouvait être vocale ou instrumentale, voire les deux, étant donné que les manuscrits ne précisent pratiquement jamais si telle et telle partie est destinée à la voix ou telle autre aux instruments. Les compositeurs s'appuyaient sur la tradition et sur les habitudes d'interprétation et ne ressentent donc pas la nécessité de donner des indications précises. L'usage voulait que les polyphonies complexes étaient exécutées par des solistes, tandis que les compositions plus simples étaient confiées au chœur. On sait qu'à cette époque, les instruments accompagnaient souvent les parties vocales, mais on ne sait pas vraiment de quelle manière. L'exécution dite a cappella, donc sans accompagnement instrumental, n'était pas aussi strictement appliquée qu'on se l'est imaginé. Dans la mesure des possibilités, chaque partie était confiée à un instrument donné, afin de favoriser la perception de la polyphonie. Et cette liberté ouvre le champ des possibles en donnant aux musiciens une liberté totale. Ce qui explique pourquoi les interprétations de musique ancienne sont souvent très différentes les unes des autres.
Thank you.
Quand la douce jouvencelle, une chanson d'un compositeur anonyme du XVe siècle, ici arrangée pour soprano, luth et harpe. Anne de La Fosse-Quentin était accompagnée par l'ensemble Les Jardins de Courtoisie. Jusqu'au XVIIe siècle, les compositeurs n'ont donc pas l'habitude de prescrire un effectif musical précis et laissent aux musiciens la liberté d'interpréter leurs œuvres en fonction des forces instrumentales et vocales à leur disposition. Et il n'est pas rare que les instrumentistes s'approprient les œuvres vocales et les interprètent pour leur propre plaisir sur leur instrument. C'est aussi une façon pour eux de se constituer un répertoire. Ainsi, à cette époque, la plus grande partie des œuvres pour orgue, luth, harpe ou guitare sont des arrangements de pièces vocales.
Thank you.
La fantaisie sur Stella Splendens, suivie du Lamento di Tristano, deux pièces de compositeurs anonymes, tirées du livre Vermeil de Montserrat, ici interprété à la harpe par Ariana Saval, un extrait d'un album intitulé Le Labyrinthe d'Ariane. C'est avec Claudio Monteverdi qu'apparaît la notion de timbre. L'auteur de l'Orfeo est un des premiers à indiquer clairement dans ses partitions les instruments qu'il désire pour accompagner les voix. Il précise notamment que le personnage d'Orphée doit être accompagné par l'orgue, le chitarrone et les violons. Monteverdi ouvre ainsi la voie à l'orchestration. Dans son sillage, les compositeurs des générations suivantes vont se mettre à définir avec plus de précision les effectifs instrumentaux qu'ils souhaitent. L'orchestre va devenir de plus en plus important et s'affirmer comme une identité qui permet des alliances de timbres. Mais la réalité vient parfois contrecarrer les bonnes intentions. On n'a pas toujours à disposition les musiciens nécessaires à la bonne exécution d'une œuvre. Et c'est là qu'interviennent les transcriptions.
Thank you.
Dal mio permesso amato, un extrait du prologue de l'Orfeo Favola in Musica de Claudio Monteverdi. Anna Lucia en était la soliste, accompagnée par l'ensemble Claudiana, direction Luca Pianca. Toutes les transcriptions ne se valent pas. Il existe d'ailleurs différentes façons de transcrire une œuvre. Certains compositeurs restent très fidèles à la partition qu'ils transcrivent, tandis que d'autres prennent des libertés vis-à-vis de l'original. Prenez le cas de Jean-Sébastien Bach, qui est sans doute l'un des transcripteurs les plus prolifiques de l'histoire de la musique. Tout au long de sa carrière, le cantor de Leipzig n'a jamais cessé de copier de sa main la musique des autres. On lui doit ainsi de merveilleuses transcriptions de compositeurs italiens, tels que Vivaldi, Pergolesi ou Corelli. Bach voyait dans la transcription, que ce soit sous forme d'arrangement ou de parodie, le moyen de se confronter avec les diverses traditions qu'il cherche à assimiler. Transcrire la partition d'un autre compositeur lui permet d'analyser sa façon d'écrire, d'en assimiler le langage pour pouvoir se l'approprier et mieux le dépasser. Ces transcriptions deviennent en quelque sorte des œuvres nouvelles.
Thank you.
Le mouvement lent Adagio du concerto pour hautbois et orchestre d'Alessandro Marcello dans une transcription pour clavier signée Jean-Sébastien Bach. Olivier Cavé en était le soliste. Bach ne s'est pas cantonné à transcrire les œuvres de ses prédécesseurs ou de ses contemporains. Il s'est aussi amusé à transcrire ses propres compositions en les adaptant à d'autres effectifs. Prenez le triple concerto pour flûte, violon, clavecin et cordes, élaboré vers 1730. Cette œuvre charmante trouve son origine dans deux autres compositions de sa plume. Le premier mouvement et le final proviennent des deux volets du prélude et fugue pour clavecin seul en la mineur, composé à Weimar. L'adagio central, lui, est issu du mouvement correspondant de la sonate pour orgue en ré mineur. Bach a retravaillé cette matière pour en extraire une œuvre nouvelle et originale. En voici le premier mouvement.
Thank you.
Allegro, c'est le premier mouvement du triple concerto pour flûte, violon, clavecin, cordes et basse continue en la mineure de Jean-Sébastien Bach. Francesco Corti dirigeait de son clavecin l'ensemble Il Pomodoro. On doit à Jean-Sébastien Bach d'innombrables arrangements et transcriptions d'œuvres, les siennes comme celles de ses prédécesseurs ou contemporains. Mais le plus amusant, c'est que lui aussi a fait l'objet d'innombrables arrangements. On peut même affirmer qu'aucun autre compositeur n'a autant été prétexte à transcription que lui. Mozart, Schumann, Mendelssohn, Alcan, Liszt, Brahms, Saint-Saëns, Rachmaninoff, Mahler, Reger, Busoni, Schoenberg, Stravinsky et j'en oublie, tous ont témoigné leur admiration envers le cantor de Leipzig en apposant leur signature aux côtés de la sienne. La chaconne de Bach, par exemple, a d'abord été composée pour violon seul. Elle a connu d'innombrables avatars ou transcriptions pour toutes sortes d'effectifs, allant du piano à l'orchestre en passant par des formations de musique de chambre. Cela permet de découvrir ou redécouvrir une même œuvre sous différentes coutures. L'absence d'une instrumentation définie chez Bach ouvre un espace immense où les arrangeurs peuvent donner libre cours à leur imagination.
Thank you.
Le Contrapunctus 19 de l'art de la fugue de Jean-Sébastien Bach dans un arrangement signé Luciano Berio. Ivor Bolton dirigeait l'orchestre symphonique de Bâle. C'est intéressant de voir comment ce grand compositeur italien s'est approprié la matière de Bach et dans sa transcription, il n'a pas pu s'empêcher d'y ajouter sa propre touche. C'est du Bach bien sûr, mais ça sonne déjà comme du Luciano Berio. Et bien avant lui, un autre compositeur italien a révolutionné l'art de la transcription pour le faire entrer dans l'ère moderne. Ce compositeur, c'est Ferruccio Busoni. C'est surtout grâce à ses transcriptions de l'œuvre de Bach que Busoni est resté dans l'histoire de la musique. Ce compositeur avait une immense admiration pour le cantor de Leipzig et son plus grand désir était de le faire connaître à ses contemporains, notamment par le biais de ses transcriptions et arrangements pour piano. Cette production occupe une telle place dans son catalogue qu'elle a quasiment occulté le reste de son œuvre pour clavier. On dit que Busoni a révolutionné l'art de la transcription parce qu'il a eu l'audace d'adopter une approche interprétative et émancipatrice. Il est parvenu à faire ressortir et exploiter toutes les qualités du piano, tout en restant fidèle au cœur des compositions de Bach. À l'époque, ses transcriptions étaient à la fois populaires, mais aussi très controversées. Mais son succès durable se manifeste par le fait qu'aujourd'hui, son nom est inextricablement lié à Bach. De Ferruccio Busoni, je vous propose d'écouter sa transcription de l'intermezzo et de la fugue tirée de la toccata et fugue pour orgue en ré mineur de Bach.